Bonsoir à tous, merci d'être là physiquement et en live. Merci Vanessa Springora et Emma Becker d'être aussi à Bordeaux pour nous parler de ce nouveau livre Odile d'été et aussi peut-être de la collection Fauteuse de troubles dont j'ai envie aussi d'entendre quelques mots. Donc j'ai envie de commencer par vous, Vanessa Springora, ça va me faciliter la tâche parce que vous allez pouvoir introduire aussi le livre. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous étiez directrice des éditions chez Julliard, vous me dites si je me trompe, autrice d'un livre qui a fait beaucoup parler de lui, Le consentement, et vous avez décidé de lancer cette collection qui s'appelle donc Fauteuse de troubles. Je voudrais bien que vous nous parliez de cette collection, quel est son parti pris, puis si vous pouvez nous expliquer le titre qui est assez incitatif.
D'accord, bonjour à tous, merci d'être là. Alors le titre, oui, effectivement, il dit beaucoup de choses déjà et je pense que c'est suffisamment suggestif pour qu'on n'ait pas besoin de l'expliquer, mais je vais quand même le faire. Il s'agit de jouer sur le double sens du mot trouble, c'est-à-dire, d'abord c'est une masculinisation, j'ai du mal à le dire, c'est un détournement d'une expression qui existe déjà, fauteur de trouble. Et fauteuse de troubles, c'est dans mon esprit une femme qui à la fois peut avoir un discours, une pensée subversive, qui peut éventuellement remettre en question un certain nombre de normes ou l'ordre établi, et à la fois une femme qui peut susciter le trouble, voire l'émoi, c'est-à-dire l'émergence d'un désir chez le lecteur. Alors cette collection, en fait, je l'ai pensée assez vite à la sortie de mon livre. J'ai commencé à avoir cette idée, mais c'était pas possible sur le moment, évidemment, parce que j'étais trop occupée. J'avais envie d'être dans la continuité, la cohérence par rapport à au chemin que le consentement avait ouvert. Et sur toutes ces questions qui tiennent à l'intimité, notamment l'intimité des femmes, j'avais envie de continuer à creuser cet espace qui commençait à s'ouvrir à ce moment-là, en fait, avec un certain nombre de publications, et pouvoir continuer à dialoguer aussi avec mes contemporaines, des femmes, des écrivaines que j'admire, sur ces questions liées à l'intimité et à la sexualité, mais toujours dans une perspective d'émancipation.
Voilà. Oui, c'est l'idée. Alors, du coup, la première fauteuse de troubles, donc, puisque c'est une collection qui est nouvelle, hein, on est d'accord?
Oui, elle vient de paraître. Les deux premiers ouvrages sont parus donc en mars et avril.
Donc, en mars, il y avait Ovidie avec La chair est triste, hélas. Et vous êtes allée, en fait, chercher Emma Becker pour le... Si j'ai bien compris, c'est une commande que vous lui avez faite, c'est ça, pour ce deuxième livre, pour Odile l'été ou...
Oui, mais en fait, quand on dirige une collection, c'est toujours comme ça, par principe. Mmh. Hein, ce sont toujours des livres de commande, puisqu'en fait, on offre un cadre avec une collection thématique qui circonscrit un sujet, et ensuite on va chercher des auteurs ou des autrices qui ont envie de se lancer dans l'aventure.
Alors moi j'ai envie de vous dire, racontez-moi pourquoi vous êtes allé chercher Emma Becker. Enfin, j'ai une petite idée de la réponse, mais racontez-nous pourquoi Emma Becker, qui n'en était pas à son premier livre, hein, et qui connaît bien l'intime, mais pourquoi elle, et qu'est-ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous attendiez d'elle, et qu'est-ce que ça donne?
Alors, je n'avais pas une attente particulière parce que je trouve que c'est important de laisser une carte blanche totale aux autrices et qu'elles puissent vraiment choisir elles-mêmes leur approche et leur sujet. Mais Emma Becker est vraiment une autrice qui, dans le paysage littéraire, de par son âge et de par son culot, j'ai envie de dire, est pour moi, en fait, centrale, en fait, parce qu'elle représente cette nouvelle génération qui n'a pas froid aux yeux, qui assume totalement son désir, sa liberté sexuelle, qui assume aussi une approche, une formulation aussi très frontale des choses, c'est-à-dire que Emma ne cherche pas à faire juste des jolies phrases, en fait. Elle dit les choses comme elles viennent. Et je trouve que ça donne en fait un style qui est assez fracassant et renversant. Moi, j'avais adoré La maison. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. Je suppose que peut-être oui.
Raconter La maison,
vous êtes
peut-être
là.
Que Emma pourra.
Donc voilà, Emma va en parler, qui était un livre qui avait été une vraie commotion pour moi. Voilà, donc c'est en grande partie pour cette raison-là. Et je pense que c'est une autrice dont on va continuer à entendre parler pendant très longtemps.
Alors Emma Becker, justement, parlez-nous de La maison, parce que évidemment Odile l'été n'est pas votre premier livre, c'est le cinquième si je ne me trompe pas. Il y a eu Monsieur, Alice, La maison et L'inconduite. L'intime, c'est un domaine que vous connaissez bien. que vous aimez, enfin, est-ce que c'est votre spécialité?
C'est devenu ma spécialité par la force des choses, parce que de livre en livre, je m'apercevais que j'avais toujours quelque chose de nouveau à en dire, parce que ma sexualité, mes désirs changeaient au fur et à mesure que je prenais de l'âge, que j'accumulais les expériences, que je changeais de perception. Et il me semblait que la description de la vie sexuelle d'une femme, de la vie affective d'une femme, est quelque chose de tellement changeant qu'il y a toujours quelque chose à en dire. Donc, c'est plus que d'écrire la sexualité, effectivement, c'est essayer de décrire finalement cette vie intérieure et ce morcellement que représente pour moi le fait d'être une femme.
Alors précisément, vous parlez de votre âge, vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre âge?
J'ai 34 ans, je suis née en 88 et j'ai commencé à écrire, mon premier livre est sorti quand j'avais 22 ans, et vous pensez bien que quand je relis mon premier livre maintenant, ce que je évidemment ma perception est des hommes, de moi-même, est très très différente, et je crois que c'est aussi une partie de ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel moment finalement j'ai réussi à être un peu plus moi-même que ce que j'étais dans mon premier livre, où j'étais vraiment au service d'un homme dont j'étais passionnément amoureuse. Et
donc c'est monsieur celui-là.
Voilà, exactement. Et comment finalement, petit à petit, j'ai évolué, j'ai réussi à me réapproprier des choses, et en tout cas à essayer de décortiquer cette fascination que les hommes m'inspiraient, enfin cet amour plein de révérence et de naïveté. J'essaye de réfléchir là-dessus, sur l'omniprésence du regard masculin et comment il nous définit, nous, en tant que femmes, à tel point qu'il est très compliqué de savoir finalement ce qui nous appartient dans notre regard à nous. Est-ce que tout n'est pas formaté finalement par le regard masculin? Enfin, bon, c'est une vaste question, mais voilà.
Est-ce que du coup vous vous considérez comme une fauteuse de troubles?
Peut-être que les autres me considèrent comme une fauteuse de troubles. Moi, j'ai pas l'impression d'être dans une tentative constante de subversion. J'ai l'impression de parler de choses qui sont des phénomènes normaux d'une vie humaine, mais peut-être parce que j'essaie de les décrire de manière un peu abrupte, enfin sans y mettre toutes les périphrases et toutes les métaphores qu'on attend toujours de la part des femmes, c'est-à-dire d'essayer de cacher ce qui est un peu obscène, un peu sale, un peu gênant par des jolies images. J'essaye pas de faire ça, et c'est peut-être ça qui constitue le trouble, peut-être. Mais je me considère pas comme je n'ai pas une volonté de choquer ou de.
Mais d'ailleurs, votre livre ne l'est pas, enfin choquant.
Ah non, c'est pas le plus choquant de mes livres.
Pas du tout. Non, mais d'ailleurs, le trouble n'est pas là. Enfin, moi, je pense que la définition qui convient le mieux au livre d'Emma, c'est plutôt effectivement, c'est quand même un livre dans la tradition de la littérature érotique, un livre qui suscite quand même le trouble, mais qui n'est pas forcément un trouble politique. Encore que je trouve que finalement, quand on creuse et quand on va jusqu'au bout du livre, on est assez surpris par la conclusion.
Il me semble aussi que le trouble est sain, le trouble fait avancer. Donc oui, j'espère dans cette dynamique-là être une fauteuse de trouble, bien sûr.
Parce qu'il y a une vraie démarche. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman initiatique, un récit initiatique?
De fait, oui, parce que c'est la première fois que j'évoque, bon, alors sous forme de fiction, évidemment, mais pour ceux qui me connaissent et me lisent un petit peu, vous imaginez bien que je suis jamais vraiment loin dans ce bouquin-là. C'est la première fois que j'évoque une étape de ma vie qui a été pour moi cruciale, qui est une clé de voûte de ma sexualité, de ma psychologie, qui sont les premières expériences avec une petite fille qui avait mon âge et avec laquelle, finalement, je me suis construite jusqu'à l'adolescence, jusqu'au moment où finalement ces deux petites filles, Odile et la narratrice, sentent bien qu'elles sont appelées par le monde des hommes. Que ce qu'elles faisaient ensemble, quelque part, c'était des petits jeux comme ça, sans conséquence. Mais ce qui les attend, leur mission divine, ce sont les hommes. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans une société qui vous fait sentir très tôt que les femmes sont appelées à l'homme, comme on est appelé à une espèce de vocation. Et quand j'ai commencé à repenser à tous ces souvenirs, je me suis dit, mais... Donc, où commence l'hétérosexualité? À quel moment est-ce qu'une femme se met à s'intéresser aux hommes quand elle a le parcours qui est le mien, à savoir une petite fille qui était tout à fait heureuse, entourée par d'autres petites filles et qui était très, très satisfaite à tous les points de vue, qui n'avait pas besoin finalement des hommes. Parce que j'ai l'impression qu'on conteste toujours, enfin, on cherche toujours à analyser le pourquoi du comment quand une femme se met à aimer les femmes ou qu'un homme se met à aimer les hommes. On se demande toujours pourquoi. Il y a toujours cette question insidieuse de qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne ne soit pas, ne soit pas hétérosexuelle. Mais on ne se pose jamais la question pour l'hétérosexualité. Est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que c'est quelque chose qu'on nous, à laquelle on nous formate finalement, et voilà, c'est pas une matière de... Alors, c'est pas une contestation de ma part, mais c'est une tentative de décortiquer quelque chose qui m'apparaît comme... Enfin, qu'on nous vend comme étant acquis, et qui ne l'est, à mon sens, pas tant que ça.
Oui, et c'est un regard à la fois féministe et à la fois... Est-ce que c'est un regard féministe, d'ailleurs, sur la sexualité, le rapport aux hommes, au corps, à la société? Ou est-ce que c'est plus complexe, finalement, que...
J'écris jamais en me disant que je suis en train d'écrire quelque chose de féministe. C'est pas une, j'ai pas une, une volonté d'être très manifestement féministe. J'essaie de décrire les choses telles que je les perçois. Il me semble que il y a une tentative de s'échapper du regard masculin, de l'omniprésence du regard masculin, parce que Odile et la narratrice n'ont absolument pas besoin des hommes. Ceci dit, elles reproduisent, même dans l'enfance, des schémas qui sont déjà les schémas des relations hétérosexuelles, avec l'homme qui prend, la femme qui se laisse prendre, l'homme qui décide, qui propose, et la femme qui, quelque part, obéit. Donc, c'est bien la preuve que l'hétérosexualité est quelque chose dans laquelle on baigne, en fait, depuis qu'on est toute petite, à tel point que même des petites filles peuvent s'inquiéter, comme c'est le cas dans mon bouquin, très tôt, de « est-ce qu'on est lesbienne, finalement ?» Est-ce que ce serait vraiment si grave que ça, d'ailleurs? Mais est-ce qu'on n'est pas en train de commettre une trahison vis-à-vis du monde qui nous attend, qui est le monde des hommes, le monde de l'amour des hommes? Donc, je ne sais pas si c'est féministe. Enfin, si, j'ai l'impression, parce que le fait même de réfléchir à l'amour que j'ai pour les hommes est, à mon sens, quelque chose d'un peu politique aussi. Parce que ça n'est pas... parce que j'y prends énormément de plaisir, mais ça suscite en moi beaucoup de questions aussi, et beaucoup de... Voilà, quand je vois ce qu'a été ma vie sexuelle, ma vie affective avec les hommes, il y a eu beaucoup de moments d'adversité, beaucoup de moments où on sent bien qu'on est en train de se demander qui a le pouvoir sur l'autre. Je ne me souviens pas avoir eu cette même adversité avec les femmes. Et du coup, j'en suis venue à me demander pourquoi est-ce qu'il avait fallu comme ça que je me jette désespérément dans le monde des hommes, et qu'est-ce qui m'y avait poussée? Est-ce que c'était un instinct chez moi, ou est-ce que c'est une éducation? Est-ce que l'amour des hommes est une éducation?
Et à la fois, ces deux petites filles, elles, effectivement, comme vous dites dans votre livre, elles reproduisent des codes... y en a une qui fait l'homme, par exemple, clairement, dans le couple de petites filles.
Oui, mais comme si, finalement, on ne laissait pas la place aux femmes d'inventer une sexualité qui serait la leur, où il n'y aurait peut-être pas de dynamique de pouvoir. Alors, ça pose la question de est-ce que la sexualité comprend en elle-même des dynamiques de pouvoir, quel que soit le genre et le sexe des personnes qui s'y adonnent. Mais c'est vrai que cette reproduction comme ça de schémas qui sont ceux qu'on nous montre dans les films, ceux qu'on nous montre dans la littérature... Ça veut bien dire qu'il y a une éducation qui est faite depuis que les petites filles comprennent qu'elles sont des petites filles, et que finalement les jeux qui prennent place entre Odile et la narratrice sont très vite relégués à quelque part une forme d'entraînement pour ce qui les attendra plus tard, hein.
Alors vous parlez de votre vie, de votre inspiration, et effectivement on a l'habitude de vous voir dans votre livre vous appuyez parfois sur l'expérience, comme dans La Maison par exemple, ou même quand elle est dans La Maison, peut-être que ça serait bien d'ailleurs d'en parler plus précisément. Et là, est-ce que effectivement est-ce que la part d'autobiographie est réelle, ou on en est... Enfin, comment
Oui, la part de fiction. Ouais. Ça, je voulais dire. c'est toujours... Finalement, mes procédés sont toujours un petit peu les mêmes. C'est-à-dire que je pars de scènes que j'ai envie de décrire parce qu'elles m'ont marquée, parce qu'elles sont dans ma tête depuis longtemps et que j'ai envie d'en faire quelque chose. Et autour de ça, tout se ramifie. Je n'ai pas vraiment envie de faire une chronologie ou tout simplement une narration classique avec des rebondissements, un dénouement, tout ça. suis plus spécialiste des tableaux. Et dans ces tableaux-là, évidemment, je mets des choses à moi. Des histoires que j'ai mis dans les mains d'Odile sont en réalité des histoires qui me sont arrivées à moi. Donc, je suis un petit peu Odile, puis je suis un petit peu la narratrice aussi. Mais il n'y a pas eu une seule Odile, il y en a eu plusieurs. Donc, un petit peu comme dans la maison, je fusionne aussi des personnages et... mais d'ailleurs, j'ai l'air de m'en justifier, mais pas du tout. Je trouve que le réel est une fabuleuse banque d'anecdotes, de scènes à raconter. Parfois, c'est vrai qu'on se dit qu'on n'a pas besoin de fiction avec une réalité pareille. Mais la part de fiction se trouve certainement dans la construction, du roman, dans le fait que ce sont des souvenirs que je réécris, que je remanipule c'est-à-dire sans doute en ne m'en souvenant pas de manière très précise et juste, mais le fait même que je les recompose de cette manière dit quelque chose de moi et voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais j'essaye en tout cas.
Si, alors c'est intéressant ce que vous dites, c'est quand vous parlez de tableau, effectivement il y a quelque chose d'assez pictural dans votre écriture, avec moi, je trouve aussi que c'est très sensoriel, il y a beaucoup de, on a l'impression de voir les scènes, de sentir les odeurs,
l'été,
le sud, les pins, ça c'est quelque chose qui est volontaire, ou c'est votre style?
Je m'attache beaucoup aux lieux et aux endroits, d'ailleurs un petit peu plus qu'aux gens, et c'est vrai que j'aime beaucoup, je sais pas si c'est ça, être sensuel, mais c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à décrire les odeurs, les lumières, et pour être tout à fait honnête, j'ai commencé à écrire Odile quand j'ai déménagé dans le sud de la France. Et c'était l'hiver, donc dans le sud de la France, il ne se passe strictement rien en hiver. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment d'investir un peu l'endroit où je vis, et qui était du reste l'endroit où j'ai grandi pendant tous mes étés depuis que je suis toute petite. Donc c'est un endroit que je connais très bien, que je trouve extrêmement érotique. Je trouve que ce sont des paysages absolument magnifiques, et que ce serait dommage de ne pas y situer un roman érotique. Voilà.
Alors, Vanessa Springora parlait de votre culot tout à l'heure. C'est ce même culot qui vous a, en tout cas, c'est comme ça que je l'analyse, qui vous a amené à écrire La Maison en étant, pour le coup, extrêmement ancré dans le réel. Vous pouvez nous raconter ce livre et ce livre à la fois, qui est presque une enquête, mais pas que. Vous êtes vraiment investi, engagé. Il faut avoir effectivement un sacré culot, un sacré courage pour. Assumer et puis transformer ce que raconter.
Et en fait, c'est pas tant du culot que moi qui déménage à Berlin avec mes sœurs et qui suis partie avec un petit peu d'argent de mon premier livre et qui au bout d'un moment voit son compte en banque s'amenuiser et se dit qu'il faudrait peut-être quand même trouver un moyen de renflouer les caisses. Et se passe plusieurs choses en même temps. Je réalise que je suis seule à Berlin avec mes sœurs, mes parents ne sont pas là, je n'ai pas besoin de justifier de mon temps, de comment je m'occupe. Et au cours d'une promenade dans Berlin, je vois le panneau d'un bordel et je réalise qu'effectivement ici c'est complètement légal. Et donc forcément dans ma tête les éléments se combinent, je me dis mais tiens, c'est pratique parce que c'est quand même un boulot où on est payé le jour même, et en plus mon Dieu, quel livre ça pourrait donner. Alors je savais pas que ça donnerait ce livre, je savais pas ce que ça donnerait tout court, mais je savais en tout cas une chose, c'était que on a en France quand même toute une littérature, tout un pan du cinéma qui parle énormément des prostituées, des bordels, des maisons closes, de cette grande époque qu'on a eue, nous, en France, et qui a complètement disparu. Et de fait, les Français et Françaises ne savent pas ce qui se passe dans une maison close. Enfin, moi, j'en avais strictement aucune idée. Et mon idée, c'était de justement aller bosser dans une maison close. Alors, je comptais y rester un an, c'est tout. Et d'écrire en fait point par point ce qui s'y passe, qui sont les clients, qui sont les femmes, parce qu'il faut bien savoir que il y avait une partie de moi qui était terrorisée par ces femmes, parce que quand je les retrouvais dans les pages de Zola, dans les pages de Maupassant, pour moi c'était presque des créatures mythologiques, enfin avec tout ce qu'elles ont de merveilleux et d'effrayant, c'est-à-dire qu'elles sont toujours décrites comme des femmes qui peuvent venir du caniveau, hein, mais qui sont capables d'asservir un monde entier juste parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles ont de l'esprit, parce qu'elles s'élèvent au-dessus des classes par la force du simple fait d'être une femme. Donc j'étais fascinée par ce monde-là, pas par la prostitution, par l'idée de la maison close. Donc j'y suis restée, j'ai commencé par bosser dans un premier bordel qui était absolument abominable, donc j'y suis pas restée longtemps. Et ensuite j'ai trouvé la maison, enfin l'endroit que j'appelle la maison, et là j'y suis restée 2 ans et demi. Et vous avez raison de le dire, au début ça commençait comme une enquête, c'est-à-dire que je voulais faire une sorte de journalisme gonzo. Je voulais prendre des notes pendant que j'écrivais, décrire point par point ce qui se passait. Et ça a été possible dans ce premier bordel abominable parce que je n'avais absolument pas envie d'en faire partie, je n'avais pas envie d'en être, je me sentais complètement extérieure à cet endroit, à la vision de la sensualité que cet endroit avait, à leur vision de faire du business. Donc je me suis barrée au bout de 15 jours comme une voleuse et je découvre la maison. Et là, l'ambiance change du tout au tout parce que en moi se produit quelque chose. Je ne suis plus, j'ai plus besoin de me protéger derrière un livre. En réalité, j'aime cet endroit, j'aime mes collègues autour de moi, j'aime comment l'endroit est organisé. Enfin, c'était un endroit plein de poésie, c'était vraiment cocasse. Et de fait, le bouquin qui devait être une enquête devient un roman. Parce que je n'ai plus besoin de me cacher derrière cette pose d'écrivain. Et de fait, je pense que c'est plus intéressant comme ça. C'est-à-dire que j'ai hésité, à un moment, je me disais, mais est-ce que je pourrais pas juste aller faire des entretiens avec les femmes qui bossent dans cet endroit ? Mais c'est pas comme ça qu'on connaît le boulot, et c'est pas comme ça qu'on réussit à avoir une opinion... Et puis, c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent non plus, d'ailleurs. mais voilà, j'ai eu la chance inouïe de tomber sur un endroit qui, je pense, était tout à fait exceptionnel. Et voilà, donc ça a donné un livre qui vaut ce qu'il vaut et dont on m'a reproché, évidemment, qu'il soit parfois un peu trop lyrique, un peu trop poétique, peut-être un peu trop positif. Mais il faut bien savoir que je n'avais pas la prétention de parler de la prostitution d'une manière générale. Je parlais de cet endroit-là, de mon expérience à moi. Et c'est vrai que ça a déclenché des débats qui m'ont obligée, moi, à me poser la question de quel était mon féminisme. Parce que, définitivement, ça n'était pas le féminisme qui considère que les femmes, à partir du moment où elles se prostituent, sont les laquais du patriarcat et cautionnent une forme de viol tarifé. Mon féminisme, à moi, était plutôt de considérer que les femmes se servent des armes qu'elles ont. Parce que si on attend que le monde change, nous, on vit quand, finalement ? C'est ça aussi le truc, c'est que la vie avec les hommes est déjà un combat permanent. Alors s'il faut se battre pour ne pas être le laquais du patriarcat en essayant juste de gagner sa vie, s'il faut constamment être en colère, alors quand est-ce que nous, on vit pendant que eux, finalement, ont beaucoup plus de latitude que nous, enfin sans même parler de prostitution, on peut aussi parler de maternité. C'est une dynamique qui ne cesse de ramener les femmes à leur condition la plus essentialiste et finalement parfois la plus avilissante. Comment s'élever à des hauteurs un peu nobles, à des hauteurs littéraires, quand vous avez les gosses à torcher, les rendez-vous à prendre, et tout un tas d'amoncellement de tâches à faire qui vous empêchent de vous envoler. Donc voilà, mon féminisme prend un petit peu partout, mais parce que je pense qu'on ne peut pas attendre des femmes qu'elles soient en permanence en train de se battre. Ce n'est pas une vie, quoi. Ce n'est pas la vie qu'on mérite, je trouve.
Alors justement, vous parlez de maternité, super enchaînement, vous êtes maman, j'en sais pas plus, mais en revanche, comment, quand on, c'est quand même pas facile, vous écrivez, c'est de l'ordre de l'intime, et comment vous conciliez l'intime privé et l'intime public, j'ai envie de dire
Parce que sans doute, j'imagine que le passage à l'écriture fait que l'intime que je décris dans mes livres ressemble très fort à ma véritable intimité. Mais il y a, ça n'est évidemment pas la même chose. Il y a quand même un petit filtre qui est apposé à ça. C'est-à-dire que comme je décris l'intimité en essayant de la décortiquer, en essayant d'y apporter une forme de substance, ça n'est évidemment pas la sexualité que je vis réellement dans ma chair. Par exemple, dans l'inconduite, où je décris toute une cohorte d'amants plus ou moins décevants, plus ou moins sympathiques, ce sont des scènes qui moi, j'ai pris énormément de plaisir à les écrire parce que la plupart du temps, elles me faisaient rire. Elles m'avaient déçue, mais elles me faisaient rire. Mais en revanche, les moments où je parlais de la sexualité que je vis avec mon mari, ça, ce sont des scènes qui ont été plus dures à écrire parce que je sentais bien que j'étais en train de décrire une vérité, enfin quelque chose de très vrai et qui était beaucoup plus cinglant que les scènes que je peux écrire avec des cornichons complètement interchangeables et qui finalement sont mignons, intellectuellement m'excitent, mais physiquement il ne se passe rien. Le sexe dans le couple, enfin dans le mien en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais c'est drôle à quel point, au bout d'un certain temps, il cesse d'être excitant, de fait, mais à quel point il peut être physiquement beaucoup plus satisfaisant que les rapports auxquels on se livre avec des hommes qui ne nous ont jamais touchés, qui ne nous ont jamais vus et qui vous font vibrer, ça c'est sûr, mais qui n'arrivent pas à toucher qui vous êtes exactement, parce que c'est trop nouveau, c'est trop... Voilà, donc le sexe dans le couple, c'est quelque chose que je trouve... brusquement me prennent des pudeurs quand il s'agit d'écrire ce genre de choses. Mais si votre question était « Est-ce que je m'inquiète de ce que mes fils penseront de ce que j'ai écrit ?» Non, pas encore, parce que 10 ans, ça me paraît loin. Alors, ça va venir très vite. Mais il me semble que ça fait partie aussi de la mission qui est la mienne dans le fait d'élever des petits garçons. C'est-à-dire que c'est maintenant, en fait, qu'il serait temps de leur dire, vous savez, votre mère, c'est votre mère, mais c'est aussi une femme, c'est aussi une personne qui a une vie... affective et pas forcément sexuelle. Personne n'a envie d'entendre parler de ses parents faisant ça. Mais disons, il est important que les enfants sachent, je pense, que les parents sont des êtres humains faillibles, qui ont tout un tas d'expériences derrière eux, qui ont fait tout un tas de compromis pour en arriver où ils en sont. J'ai pas envie que mes enfants grandissent avec l'impression d'avoir une espèce de mère monolithique qui étend son ombre sur... J'ai pas peur de parler de mes livres à mes enfants. Et puis, de toute façon, les enfants cherchent toujours des raisons de vous détester. Donc, c'est à la limite. Comme ça, au moins, c'est fait. Et puis, voilà.
Alors, Vanessa Springora, quel regard d'éditrice vous portez justement sur ce culot de l'autrice? J'ai toujours du mal à dire autrice. Moi, je trouve ça moche comme mot. Mais bon, auteur, je préfère. Oui. Donc je m'incline. Mais de ce courage, notamment, qu'il a fallu pour écrire, enfin en tout cas, ou de ce culot qu'il a fallu pour écrire La Maison en tant qu'éditrice, comment vous le percevez, comment vous l'analysez, et est-ce que vous dites waouh ?
Je pense que le culot d'Emma, il est dans tous ses livres et pas uniquement dans La Maison, qui effectivement, je pense, c'était un livre pas facile à défendre. Moi, je trouve absolument magnifique. Ce que je voudrais rajouter, c'est que quand tu disais que à l'intérieur de cette maison, finalement, les femmes n'avaient pas vraiment le choix ou faisaient comme elles pouvaient avec leurs armes, ce qui est très intéressant et ce qui est très beau dans le livre, c'est qu'il y a aussi une inversion du rapport de pouvoir. C'est-à-dire que finalement, ces hommes qui viennent, d'ailleurs, sont pas toujours, ces clients, sont pas toujours à la recherche que d'un orgasme. En fait, ils veulent de l'amour, ils veulent de la tendresse, ils veulent de la reconnaissance. Et en fait, ces femmes, elles jouent aussi un autre rôle dans leur vie. Et c'est très intéressant de voir comment
elles jouent finalement le rôle que les femmes jouent aussi à pas mal d'occasions au quotidien, sans toucher pour ça un sens. C'est-à-dire que c'est vrai que j'avais l'impression d'être payée pour le boulot qui était le mien, c'est-à-dire être une femme. Et ça paraît peut-être un petit peu caricatural, mais en fait, est-ce que ça l'est tant que ça ? Et je le réalise surtout maintenant depuis que j'ai des enfants, que c'est un vrai métier d'être une femme. Enfin, c'est un vrai, et on nous laisse pas beaucoup le choix. Mais pardon, excuse-moi, j'étais coupée.
J'ai oublié votre question.
On était sur le culot.
Sur le culot. Oui, donc. Mais je trouve qu'il y a autant de culot dans la conduite et il y a autant de culot dans Odile l'été. Ce qui est compliqué.
Il y a aussi une inversion d'ailleurs des rôles dans Odile l'été.
Oui, je trouve que ce que Emma Bécard décrit très très bien, c'est justement la complexité des rapports de domination qui sont pas justement forcément toujours genrés. Enfin, c'est pas toujours les hommes qui dominent les femmes, c'est parfois l'inverse. Les femmes peuvent se dominer entre elles. Enfin, c'est aussi le cas, c'est ce que tu décris dans Odile l'été. Donc, ça c'est très subtil la façon dont elle parle de la question de la domination, y compris donc dans l'intimité, et aussi de la jouissance qu'on peut en retirer. Donc c'est moi, ce que j'aime, c'est le culot, Mais c'est aussi l'intelligence, Shaima, enfin, quand vous l'écoutez parler. Enfin, je crois que c'est une évidence. C'est une intelligence des rapports humains et des émotions aussi. Alors, quand je lui ai proposé de faire un livre avec moi dans la collection, je savais bien qu'elle n'allait pas sortir de cet univers-là. Je ne m'attendais pas du tout à ce sujet d'illété sur l'enfance, que je trouve un très, très beau sujet, parce que, justement, tous, hommes, femmes, on est confronté à cette découverte très progressive de la sexualité qui se passe toujours, enfin, plus ou moins bien selon les cas. Mais moi, comme j'avais aussi envie d'avoir dans cette collection des livres un peu solaires, un peu joyeux et qu'on n'aborde pas la sexualité que par le biais justement de l'abus sexuel ou de la violence, j'avais un peu envie de sortir aussi de ces questions-là et de montrer qu'il y avait aussi tout un prisme beaucoup plus large. J'étais vraiment très heureuse du choix qu'a fait Emma, pas uniquement pour son culot, parce que ça, le culot, on la connaît là-dessus, mais aussi sur la beauté de ce texte qui est effectivement très solaire, qui décrit des relations aussi qui avec beaucoup d'amour en fait entre ces deux jeunes filles, très jeunes filles, et une complicité aussi assez étonnante qui va durer comme ça sur des années. Et
mais qui n'est pas non plus dépourvue d'adversité. Non, mais je
précise complexe, quand même que... C'est complexe.
Voilà, non, mais c'est-à-dire je n'idéalise pas non plus les rapports entre femmes. C'est vrai que on est souvent tenté de se dire hein, c'est tellement compliqué avec les mecs, c'est sans doute plus simple. En fait, je pense pas du tout que ce soit plus simple. Et il me semble que ces problématiques de domination et de soumission dont tu parlais, peut-être qu'elles sont larvées tout simplement dans la pulsion sexuelle. Il faudrait se demander, est-ce que c'est l'influence de l'homme sur la femme qui a fait qu'il y a des dominants et des dominés, ou est-ce que c'est tout simplement la pulsion sexuelle qui est à la base quelque chose de profondément égoïste et qui passe aussi par un certain anéantissement de l'autre, si ce n'est de soi. Mais bon, ça c'est encore un sujet très vaste et je ne prétends pas y apporter de réponse, mais bon, voilà, j'ai essayé d'ouvrir quelques portes en ce sens.
Et c'est assez intéressant parce que précisément, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de certitude dans ce livre non plus, qui renvoie à soi finalement et à sa propre intimité, parce que c'est plein de portes ouvertes. Mais
Et puis c'est plein de jeux, c'est-à-dire oui. Que de la même manière que ces deux petites filles commencent par des jeux sexuels, des jeux érotiques, mais qui sont des jeux, Emma joue aussi beaucoup avec le lecteur, c'est-à-dire qu'à des moments, on est un petit peu sur la brèche, on ne sait plus très bien ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. D'ailleurs, la narratrice est... Odile elle-même, à un moment donné, mélange un peu leurs souvenirs et les confronte et ils ne sont pas tout à fait identiques. Il y a beaucoup de jeux, en fait. Et c'est ça que je trouve très intéressant d'un point de vue littéraire aussi. Et le lecteur, il prend énormément de plaisir parce que, justement, on est face à une écrivaine qui joue avec le lecteur et qui joue avec son imaginaire, avec son désir, mais aussi avec la puissance des mots et puis la façon de retourner les choses aussi de façon très surprenante. Oui.
Tout à fait. Et alors, vous parlez de style. Je trouve que c'est à l'éditrice que je pose la question. Vous écrivez super bien. C'est à la fois très fluide, très imagé, très sensuel. C'est une belle écriture, un beau style, Vanessa Springora. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les tournures de phrases, sur le rythme
C'est un petit peu comme quand on entend parler Emma, c'est-à-dire qu'elle a ce mélange de jeunesse, de vocabulaire de son temps, avec de temps en temps des formules très crues ou très directes, et puis tout d'un coup des envolées lyriques qui sont magnifiques, avec, on voit derrière toute la culture littéraire qu'elle a, évidemment, de lecture, enfin, c'est très perceptible quand on la lit, et donc il y a beaucoup de profondeur, mais moi j'aime... Justement, cet effet de surprise, je parlais de jeu, c'est-à-dire que parfois on ne s'attend pas chez elle. Justement, les formules ne sont pas attendues, les mots arrivent comme ça un petit peu par surprise. Et je trouve que c'est vraiment, ça lui donne une sorte de singularité. Je pense qu'elle elle a énormément de talent, mais sinon, je n'aurais pas proposé de faire ce.
Je ne regrette pas d'être venue, en tout cas. Vraiment, merci.
Non, mais c'est important, le style, dans un livre. Surtout, en plus, effectivement, c'est pas un livre d'action. Donc, il faut qu'on se laisse attraper par
oui,
le rythme, par les mots, par l'écriture.
L'érotisme, ça peut devenir vite...
Vite moche.
Non, mais déjà, ça peut devenir moche, mais ça peut devenir lassant. Et Ouais. C'est compliqué de trouver un bon équilibre entre quelque chose qui soit pas justement que des formules, que des périphrases, que des métaphores, et quelque chose qui soit pas que du pilonnage échevelé, quoi. Parce que l'érotisme, contrairement à la pornographie, c'est quand même aussi l'art du report, du décalage, de l'excitation qui n'arrive jamais vraiment à son terme. Le but d'un livre érotique n'étant pas spécialement d'exciter le lecteur de manière priapique, quoi, mais de suggérer quelque chose, de mettre des idées en tête, de planter des graines et d'attendre. Peut-être que ça prendra des années pour germer, mais c'est là toute la différence et toute l'élégance de l'érotisme par rapport à la pornographie, il me semble.
D'où l'importance du style.
Oui, et c'est pas un compliment que je me fais moi-même, mais disons que c'est dans cette idée-là que j'essaye d'écrire, en tout cas.
Alors, précisément, vous parliez de littérature érotique et pornographique et de style. Est-ce que vous avez des auteurs qui vous ont marqué, des autrices, un univers?
Oui.
Racontez-nous. Alors, ça.
Déjà, moi, j'ai commencé très tôt par lire de la BD. Qui n'était pas forcément d'ailleurs de la BD érotique, mais c'était de la BD des années 70. Donc, c'était toujours il y avait toujours quelque chose d'un peu cul. Et je pense notamment au Fluide glacial que mes parents lisaient, qui était à l'époque beaucoup plus. Olé, olé, si j'ose dire, que les fluides de maintenant. Il y a eu Riser, il y a eu Manara, Villemain. Donc là encore, même dans la BD, c'était que un monde de mecs, donc que des imaginaires sexuels de mecs. Donc, alors bien sûr, maintenant je me pose la question, je me dis, si j'avais lu plus de femmes, que serait devenue ma sexualité? Mais alors, si on se pose constamment ce genre de questions, on devient fou. Je préfère me dire que je me suis inventé ma sexualité de femme à moi, dans un monde qui avait été dessiné par les hommes. Et j'y ai pris ce qui me plaisait, et j'y ai trouvé une forme de satisfaction, et j'en ai fait mon beurre d'une manière ou d'une autre. Après, il y a eu, évidemment, Nicholson Baker et Le Point d'Orgue, dont j'ai parlé assez souvent, et Françoise Rey, évidemment, qui, malheureusement, je crois, fait plus grand-chose, mais qui a écrit des livres qui, moi, je trouve absolument somptueux, et notamment parce qu'elle n'a pas ce côté un peu emprunté que peuvent avoir les femmes en littérature érotique, disons, les femmes telles qu'on les a voulues en littérature érotique. Françoise Rey, il y a quelque chose de solaire, de direct, de pas embarrassé, de très sensuel, et qui me parlait sans doute plus que, je sais pas, quelque chose comme Histoire d'eau, ou alors même Anaïs Nin, qui m'a parlé, mais très tard. Hein. C'est-à-dire que je trouvais ça très... Quand j'ai commencé à lire Anaïs Nin, vers 17-18 ans, je trouvais ça très chichiteux. Bon, il faut dire que l'époque n'était pas la même. On n'autorisait pas les femmes à dire la même chose, mais... Ça, c'était des auteurs très importants pour moi. Je dois dire que La bicyclette bleue de Régine Deforge, ça a été quelque chose. C'est-à-dire que François Tavernier, alors là, pendant très 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 longtemps, je me suis endormie avec cet homme en tête. Je pense notamment à cette scène, la première scène où ils font l'amour et le village est en train d'être bombardé. C'est absolument magnifique. Et je pense que ça a assis en moi aussi cette espèce de fantasme qui ressort aussi dans Odile, qui est vraiment ce fantasme de l'homme pénétrant la femme, et la femme accède à une nouvelle dimension d'elle-même. C'est-à-dire que cette idée que la pénétration transfigure la femme, ce qui n'est pas vrai du tout, hein. Mais j'y tiens, ce sont mes vieilles lunes, j'aime beaucoup en parler, j'ai pas très envie de déboulonner cette idée-là.
C'est vrai que c'est très traditionnel comme fantasme quand même.
Mais tout comme le fantasme d'Odile que je raconte dans le bouquin avec le gang d'ouvriers. Enfin, c'est-à-dire que, bien sûr, c'est un fantasme qui pue le porno des années 80, mais c'est un fantasme familier. C'est-à-dire que c'est un fantasme où il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Il y a cette horde d'hommes qui savent exactement ce qu'il faut faire. Et au milieu, il y a cette femme qui, vaincue par le nombre des assaillants, ne peut plus tellement réfléchir. Et là-dedans, pour moi, il y a quelque chose de crucial. C'est le fait de ne plus réfléchir. Parce qu'il me semble que l'abandon, pour moi, et j'imagine que je ne suis pas la seule femme à ressentir ça, mais l'abandon est quelque chose de tellement problématique, de tellement compliqué. C'est tellement dur d'arrêter de penser à soi quand on est avec un homme, quand on est avec une femme. D'ailleurs, c'est tellement dur d'arrêter de se demander à quoi on ressemble. Est-ce qu'on renvoie à l'autre l'image qu'il a envie qu'on lui renvoie? C'est tellement dur de ne faire que ressentir, que j'ai toujours eu dans l'idée que s'il y avait comme ça une horde d'hommes... Eh ben je serais trop occupée pour penser. Enfin, je veux dire, je serais trop je n'aurai plus le temps, en fait. Et peut-être que c'est ça, peut-être que c'est une espèce de porte de sortie que je dessinais dans ma tête. Alors, je note que ce n'est pas un fantasme que j'ai essayé de mettre en place pour moi-même, mais c'est une espèce de concept que j'ai longtemps caressé comme ça dans ma tête, en me disant, peut-être qu'un homme, ce n'est pas assez parce que c'est trop accaparant. Il est trop là et moi je suis trop là aussi. Peut-être que s'il y en a 8, ils se fondent tous dans une masse. Et finalement, individuellement, il est tellement facile de les mépriser, les hommes. Mais s'il y en a 8, c'est plus 8 individus. C'est l'homme dans sa globalité. C'est l'homme qui prend la femme. Ça devient presque un concept. Et voilà, je ne sais plus comment ma phrase a commencé, mais voilà ce que je voulais dire.
Je ne sais même plus quelle question, moi non plus, je ne sais même plus quelle question, d'où c'est parti cette affaire. Vanessa Springora, vous qualifiez, en tout cas c'est la quatrième de couverture, qualifie cette collection d'irrévérencieuse. Est-ce que c'est en quoi c'est irrévérencieux? Est-ce que c'est voulu, cette irrévérence? C'est étonnant comme adjectif, irrévérencieux.
Oui, alors je pense que ça part de ce dont parlait Emma tout à l'heure, du fait que, d'une part, en tant que lectrice, moi je me suis aperçue que, effectivement, mon propre imaginaire érotique avait été façonné par des lectures masculines. Et comme le disait Emma, enfin, moi je ne me suis pas trop reconnue non plus dans Anaïs Nin. J'ai lu assez peu de littérature féminine qui m'ait convaincue. En revanche, tout ce que j'ai lu quand j'étais jeune, c'était Bukowski, Miller, et Sade, Bataille, voilà, Calafert. Enfin, et ce sont des auteurs qui ont été très importants, mais au bout d'un moment, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, c'est quand même étrange. Pourquoi finalement est-ce que moi, femme, jeune fille, enfant, je n'ai eu accès qu'à des représentations façonnées par le regard masculin. Donc l'idée de la collection, elle partait déjà de cette envie, de ce manque aussi. Mais il se trouve que par culture, on attend d'une femme plus de pudeur qu'un homme. Et donc, c'est ce qui explique effectivement qu'il y a une certaine pauvreté, encore qu'il y a des femmes dont tu parlais, comme Françoise Rey, qui est formidable, il y en a eu d'autres. Mais même quand on pense à Histoire d'eau était écrite par une femme, pourtant, et à l'époque, dans les années 80, quand j'étais jeune, on racontait que c'était un homme qui en était l'auteur. C'est-à-dire, même quand une femme, finalement, écrivait un livre érotique qui avait un certain succès, on lui en retirait la maternité. Donc, c'était quand même un peu... Il y avait un manque de mon point de vue. Et depuis les années 90, j'ai vu qu'un certain nombre de livres ont commencé à apparaître, qui étaient souvent des autofictions d'ailleurs, enfin des récits personnels, autobiographiques, de femmes. Ça va de Angot à Despentes, en passant par Annie Ernaux, qui abordait, ou Catherine Millet, la sexualité de façon beaucoup plus frontale que ce à quoi j'avais été habituée jusque-là. Mais ça restait, bon, sauf dans le cas de Catherine Millet, assez anecdotique, c'est-à-dire au détour d'un passage. Voilà. Et je me suis dit, bon, il y a encore quand même... Il y a encore des difficultés pour une femme romancière de s'assumer en tant qu'autrice de textes érotiques. Et peut-être parce que, quand les femmes le font, on discrédite immédiatement cet objectif qu'elle se donne, c'est-à-dire de faire la même chose que les hommes, c'est-à-dire de parler de leur intimité, de parler de leur sexualité. On le discrédite parce que c'est encore assez mal perçu. Et je pense qu'il faut assumer l'irrévérence, pour revenir à votre question. C'est-à-dire que une femme doit n'avoir aucune crainte, pas plus que n'en avait Miller, ou n'en avait Calafert, ou n'en avait Bukowski, et aller aussi loin dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la franchise. Et ça, pour moi, c'est une sorte d'irrévérence, oui, à un ordre social dont on est un peu fatigué, et moi qui suis peut-être plus féministe, en tout cas qui l'assume davantage que Emma, je pense que ça fait partie du rééquilibrage naturel qu'on doit apporter à la littérature. Et j'espère que cette collection fait œuvre justement de ce rééquilibrage nécessaire pour les femmes. Et c'est un espace de liberté aussi pour elles de savoir qu'on n'a pas à avoir peur de l'irrévérence.
Non, mais tu viens de dire un truc intéressant. Je pense que l'irrévérence, effectivement, il y a une dimension de l'irrévérence qui est très importante, mais ce serait aussi important que les femmes puissent écrire leur sexualité sans qu'on les soupçonne constamment de vouloir être dans la subversion, dans la contestation. Quand est-ce qu'on va pouvoir parler d'érotisme en faisant juste de la poésie. Finalement, c'est pas constamment une revendication de parler de sexualité. On pourrait aussi tout simplement avoir envie d'écrire un livre comme La mécanique des femmes de Calafert, en essayant juste, en croquant juste des passages de notre vie sexuelle ou affective qui nous ont paru d'une folle poésie, en espérant juste que ça puisse toucher les autres. Mais dès qu'une femme parle de sexualité, il faut que ce soit quelque chose de grave, il faut que ce soit quelque chose qui remette tout en question. Ça fait partie aussi, je pense, d'un rééquilibrage justement, c'est-à-dire d'accorder aux femmes le droit de ne pouvoir faire que, de n'avoir envie de faire que de la poésie pure. Enfin, tu vois, c'est-à-dire de ne pas être constamment dans quelque chose de politique.
Bien sûr. Non, mais quand je dis qu'il y a quand même un rééquilibrage à faire, c'est que même jusque-là, quand on accordait aux femmes le droit de publier des textes érotiques grand public, hein, je veux dire pas dans des collections qu'on passe sous le manteau, ça donne du Fifty Shades of Grey, enfin, c'est-à-dire des choses qui sont extrêmement stéréotypées, encore une fois, du point de vue masculin, alors que d'ailleurs, ce sont des lectrices qui les lisent majoritairement, c'est assez étrange. Ce sont des collections qui sont très, des livres qui sont très marketés et formatés, et parce que justement, ça n'est pas encore ce qui est attendu d'une femme d'avoir sa propre.
Non, mais c'est-à-dire
sa propre vision des choses et qui n'est pas toujours forcément au service du plaisir et du regard masculin.
Oui.
Et donc c'est
ça. Et d'inventer d'autres, enfin de proposer finalement d'autres imaginaires et d'autres sexualités que toujours celle-ci. Bien sûr, non, je comprends ce que tu veux dire.
C'est en train de bouger quand même, ça change.
Mais ça bouge beaucoup, bien sûr. Et puis bien sûr, il y a des textes érotiques poétiques magnifiques et qui sont des odes aux hommes aussi. Je le dis pour les quelques hommes qui sont dans la salle. Je ne voudrais pas qu'ils croient que je les déteste. Pas du tout. Mais c'est vrai que là par exemple, j'ai lu un texte qui est absolument magnifique d'une femme tchèque, une poétesse tchèque dans les années 60, qui a été traduit à la contre-allée. Alors le titre est absolument terrible. D'ailleurs, il n'est même pas dans le texte. Je n'ose même pas vous le dire. Ça s'appelle Pas dans le cul ce soir.
Oui.
Mais bon, contre toute attente, malgré ce titre un peu provocateur, en fait, c'est une déclaration d'amour à l'homme qu'elle aime, qui est absolument magnifique et qui est un livre très érotique et très, très beau, effectivement.
Comment ça a été, justement, on parlait de cette d'irrévérence ou pas, comment cette idée de collection a été accueillie chez Julliard quand vous l'avez annoncée? Est-ce que ça a été une évidence? Est-ce que ça a coincé un peu? Est-ce qu'on vous a attendu au tournant? Comment ça a été perçu, reçu?
Non, ça a été très bien perçu, mais c'est surtout en fait, une collection que j'avais lancée, un projet qui était lancé déjà au moment où je dirigeais les éditions Julliard. Donc, je n'ai pas eu vraiment, si vous voulez, à convaincre. Mais de toute façon, j'ai toujours été soutenue sur ce sujet-là, parce que je pense que, d'abord, à l'heure actuelle, c'est à nouveau une femme qui dirige les éditions Julliard. Donc, je pense qu'en tant que femme, on reste très solidaire sur cette idée que le chemin est long et qu'il faut, vraiment, que je parlais d'ouverture d'espace tout à l'heure, c'est vraiment important de dire que ce n'est pas juste une question de libération de la parole, c'est juste donner cet espace aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer en toute liberté. Et c'est effectivement peut-être plus facile quand on est entre nous, de se mettre un peu d'accord sur le fait que ça n'a rien de choquant. Bon, évidemment, on m'a posé la question, est-ce que ça sera pornographique? Est-ce que ce sont des livres qu'on pourra mettre en librairie comme ça? Ou est-ce qu'il faudra les mettre sous blister? Mais je dis non, bien sûr, je n'ai pas du tout dans mon idée de faire de la littérature pornographique. Il y a quand même une marge entre les deux.
Oui, il y a une marge. Mais forcément, certains ont peut-être un peu vite fait d'assimiler l'érotisme et la pornographie, l'intime et l'érotique.
Ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi comment ça évolue au fil du temps. C'est-à-dire que ce qui était pornographique aujourd'hui, ce qu'écrit Emma aurait été considéré comme pornographique il y a 50 ans, et vice-versa. C'est-à-dire des choses qui étaient considérées comme pornographie il y a 50 ans nous paraissent ridicules. Faut pas oublier que Emma Bovary a quand même, le livre était condamné pour pornographie à l'époque, au 19e siècle.
Oui, on part
maintenant,
loin,
c'est un livre
même
qu'on prescrit à tous les étudiants et les jeunes gens au collège et au lycée. Donc il y a une évolution quand même, et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est cette évolution des mentalités qui fait que on peut intégrer dans la littérature des sujets qui jusque-là étaient tabous, qui le sont de moins en moins, et c'est important qu'ils ne le soient plus, parce que la sexualité fait partie intégrante de notre vie, et que la littérature doit recouvrir absolument tous les sujets, et évidemment les plus fondamentaux.
Et effectivement, il y a une part... Alors, il y a aussi du tabou dans votre livre. Quand on évoque la sexualité, c'est une chose, mais avec enfants, c'est encore un autre cap. Mais c'est pareil, c'est en plus là, c'est deux enfants, donc c'est très deux petites filles.
Oui, mais je pense qu'il y a des choses à dire qui sont pas du tout malsaines ou problématiques sur la naissance la naissance d'une sexualité, c'est-à-dire qu'on a toutes des souvenirs de des mois sexuels alors qu'on n'était pas encore en âge de les exprimer, de d'acter là-dessus. Si on ne peut plus parler de ça, alors ça n'est même pas la peine de parler de sexualité. C'est très intéressant de savoir comment naissent les obsessions, les marottes, les trucs qui finalement vont nous obséder toute une vie. Là, en l'occurrence, oui, c'est sûr que puisque c'est deux petites filles, il y aura toujours quelqu'un de mal intentionné pour trouver ça, pour trouver le principe même très excitant. Moi, je crois que c'est absolument pas subversif. C'est la vérité de ce qui se passe. Ce sont des souvenirs qui m'appartiennent. Je crois que on est plein à partager comme ça des souvenirs d'enfance. Ce qui est choquant, c'est toujours dans le regard du lecteur, c'est pas dans le regard de la personne qui écrit. Je n'ai pas la volonté de choquer qui que ce soit en parlant de ça. Je crois que c'est un phénomène tout à fait normal. Après, c'est sûr que j'écris des livres. Peut-être que si je faisais de la BD ou du dessin, ce serait différent. C'est évident. La littérature permet une marge de manœuvre que certainement les artistes graphiques n'ont pas plus que les réalisateurs, pas plus que tout ce qui finalement nous oblige à regarder en face ce qu'on est en train de nous décrire. Mais voilà, ça en gros, c'est aussi un vaste sujet et qui a été débattu abondamment ces derniers mois.
Oui. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous dévoiler un pan de votre prochain projet, Emma Bécard ?
Non, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est une espèce de superstition chez moi. C'est que tant que je n'ai pas fini d'écrire le livre, j'en parle pas, mais je suis en train d'en écrire un qui prend énormément de place en moi et qui me plaît déjà énormément.
Il y a déjà de l'information dans cette phrase. Et Vanessa Springora, alors il y a un troisième livre dans la série Fauteuse de troubles qui va sortir bientôt, si j'ai bien compris.
Oui, mais alors c'est pas celui qui a été annoncé. Qui a été annoncé en fait est reporté un peu plus tard, parce que l'autrice malheureusement n'était pas,
prête.
Ça
arrive. Hein.
D'autres choix, Mais je ne peux pas annoncer non plus le nom du prochain.
Mais peut-être que vous pouvez nous dire où vous voulez nous emmener.
Mais je peux vous dire que ça va être une sacrée surprise. Voilà.
Ah bah. Ouais. Et c'est pour quand cette sacrée surprise ?
Ce sera pour le mois d'octobre.
D'accord. Et vous avez une idée de la direction que ça devrait prendre les prochains mois ou avec les prochains auteurs ?
Les journalistes, non ? Non. Non, mais je tiens absolument à ce que cette collection accueille vraiment une pluralité de voix, une diversité totale donc d'approches littéraires, de genres littéraires aussi. J'aimerais qu'il y ait de la poésie, j'aimerais qu'il y ait du théâtre. Il y a eu déjà un essai personnel qui était celui de d'Ovidie, un roman, celui d'Emma Bécard. Donc je vais aller vers des formes qui peuvent être très différentes les unes des autres, différents genres, et puis aussi des autrices très différentes les unes des autres. Oui.
Mais que des femmes, on est d'accord.
Pour l'instant, oui.
Ah. On va arriver à vous faire.
Mais ça peut évoluer.
D'accord.
Ouais, ça peut évoluer.
Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour votre venue à toutes
merci
les
à
deux.
Vous, merci à
merci
tous.
Merci pour votre présence dans la salle et en live.